Europe 1, il est 8h.
Moi, personnellement, je suis fatigué d'entendre toujours le même refrain. Les musulmans, les musulmans, les musulmans. Et c'est systématiquement avant les élections.
La lassitude des habitants du quartier de Bourdes-Villers à Mulhouse. Emmanuel Macron sur place aujourd'hui pour parler communautarisme islamiste, un déplacement électoraliste selon certains.
Il vient d'arriver et il doit déjà défendre la réforme des retraites. Le tout nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, chahuté à l'Assemblée nationale.
L'heure est aujourd'hui à la responsabilité face aux Français par une discussion qui prendra le temps qu'elle prendra, y compris dans le brouhaha, mesdames et messieurs les députés, si nécessaire.
Chahut et pluie d'amendements, 41 000, une longue bataille parlementaire promise par la France insoumise. Et qu'en est-il de la stratégie à droite? Mon invité à 8h15, le président des Républicains, Christian Jacob.
Les suites de l'affaire Benjamin Griveaux. Piotr Pawlenski et sa compagne présentés aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen.
Et puis un match pour solder le passé, Dortmund-PSG ce soir, 8e de finale aller de la Ligue des Champions et une tribune qui promet l'enfer aux Parisiens, le fameux mur jaune de Dortmund.
3 ans que les Parisiens échouent prématurément dans la compétition Rennes en 8e de finale. Les 8e, c'est ce soir.
Mais cette fois, il y a Neymar.
Neymar, on verra, en forme, pas blessé cette année. 8h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
C'est une prise de parole attendue. Emmanuel Macron aujourd'hui à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Il doit présenter un plan contre le communautarisme islamiste ou le séparatisme, selon le terme de l'Élysée. Accusé de naïveté sur ce sujet sensible, le président doit convaincre.
Lutter contre la radicalisation et les influences étrangères qui gangrènent certains quartiers de France. Emmanuel Macron va en parler dans un quartier mulhousien qui n'est pas choisi au hasard, Bourdes-Villers.
Oui, les autorités estiment que la République y est en recul. Sur place, on voit surtout dans le déplacement présidentiel des intentions électoralistes à quelques semaines des municipales. Arthur Mbaché.
Ils sortent de la mosquée du quartier et découvrent l'intitulé officiel de la visite présidentielle ici à Bourdes-Villers, séparatisme islamiste. Mohamed Salah Ebrahim.
Moi qui vis dans le quartier, qui habite dans le quartier, qui a étudié dans le quartier, j'ai pas entendu ce genre de choses. Au contraire, on vit avec les valeurs de chacun.
Moi personnellement, je suis fatigué d'entendre toujours le même refrain. Les musulmans, les musulmans, les musulmans. Et c'est systématiquement avant les élections.
C'est des thématiques qui sont prises par le Front National. Et que M. Macron essaye de récupérer les électeurs du Front National pour les prochaines élections, c'est tout.
Au bout de la rue, à l'arrêt du tram, l'embarras et la franchise d'une équipe de militants qui tracte pour la candidate macroniste. Le président de la République choisit Bourdes-Villers pour parler de séparatisme islamiste.
Non, j'ai du mal à saisir. Mes enfants ont tous fait le collège de Bourdes-Villers, qui est ce collège ici dans le quartier un petit peu difficile. Et je ne sens pas forcément une radicalisation ou des choses plus difficiles dans le quartier.
Il sera question ici tout à l'heure de la grande nouvelle mosquée de l'autre côté de Mulhouse, controversée à cause de ses financements du Qatar. Commentaire d'un militant En Marche.
On se pose moins de questions quand le Qatar finance le PSG.
Bourdes-Villers, Arthur Mbaché, Europe 1.
Et avant Mulhouse, Emmanuel Macron était en Haute-Savoie. Il y a 4 jours, en déplacement sur le thème de l'écologie, le président s'était notamment rendu dans la commune de Saint-Gervais.
Bonjour, Jean-Marc Payex.
Bonjour.
Vous êtes le maire d'Hiverdroite de Saint-Gervais. Vous avez reçu des centaines de messages d'insultes et de menaces de mort après la venue d'Emmanuel Macron dans votre commune. Mais qu'est-ce qu'on vous reproche ?
Ah ben on doit me reprocher d'avoir reçu et bien reçu le président de la République. Je pense que tous ces gens qui infiltrent les réseaux sociaux sont des gens qui ont tellement de haine et tellement de haine contre aujourd'hui Emmanuel Macron, aujourd'hui Jean-Marc Payex, qu'ils l'expriment comme ça. Ce sont des gens qui vivent comme ça. J'ai eu, moi, plus de 400 faux comptes sur mon compte Facebook, puis plus de 800 messages d'insultes, menaces de mort. Voilà, ce sont des gens qui sont en France ou peut-être dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, c'est intolérable. On ne peut pas atteindre la République comme ça. On ne peut pas s'attaquer au président de la République et à un maire de cette façon-là.
Un élu de la République que vous êtes, vous avez porté plainte contre X, mais plus largement, qu'est-ce que cela trahit? Vous appelez à un sursaut républicain.
Ben, ce que ça trahit, c'est en fait aujourd'hui il y a la très grande majorité des Français qui ne fait que subir. On subit des gens qui cassent, on subit des gens qui menacent, on subit des gens qui veulent faire leur loi. Ben, je crois qu'il est temps que les Français se réveillent. Ou alors ça va être l'extrémisme, ça va être la même situation qu'en 1936. On va mettre au pouvoir des gens qui vont mettre en avant de telles idées. Donc il est temps de réagir. Il faut que la République se remette en place, que la démocratie soit effective et non pas monopolisée par ces extrémistes. Et la démocratie, c'est quoi? C'est vivre. c'est pas vivre sous la terreur, c'est vivre.
Il faut que la République se remette en place. On entend votre message. Merci Jean-Marc Péex, maire de Saint-Gervais, d'être intervenu en direct dans le journal de 8h.
Il remplace Agnès Buzyn, au pied levé. Sacré baptême du feu pour Olivier Véran.
Le tout nouveau ministre de la Santé sur le front de la réforme des retraites au Parlement. Il a défendu hier le texte du gouvernement dans une ambiance électrique captée par le micro Europe 1 de Claudia Bertram.
Le projet que nous vous présentons est un projet annoncé de longue date. Ce projet a la légitimité d'un programme présidentiel. Il a la légitimité d'une concertation. Il a la légitimité d'un rapport préparatoire conduit sous l'égide de Jean-Paul Delevoye. Et j'espère qu'il aura demain la légitimité large accordée par la confiance des parlementaires. L'heure est aujourd'hui à la responsabilité face aux Français, par une discussion qui prendra le temps qu'elle prendra, y compris dans le brouhaha, mesdames et messieurs les députés, si nécessaire. Parce que nous respectons le Parlement et nous respectons les moyens de l'opposition, même lorsque ces moyens ne sont pas mis au service de la progression du débat. Et j'espère que mes collègues qui me suivront pourront parler dans autre chose qu'un brouhaha immense que celui que vous offrez aujourd'hui à la représentation nationale.
Les suites de l'affaire Benjamin Griveaux. Piotr Pawlenski et sa compagne ont présenté aujourd'hui un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen.
Ces deux derniers jours, les deux suspects étaient en garde à vue. Alors comment se sont passés les interrogatoires et surtout quel rôle pour chacun des protagonistes? Les informations pour Europe 1 de Marion Dubreuil.
Piotr Pawlenski a gardé le silence face aux enquêteurs, mais il avait revendiqué publiquement son rôle dans la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux avant sa garde à vue. Le degré d'implication de sa compagne est moins clair. Elle est la destinataire des vidéos intimes de Benjamin Griveaux en mai 2018. Elle avait d'ailleurs eu une liaison avec le porte-parole du gouvernement à l'époque, mais il n'est pas établi qu'elle ait délibérément transmis ces images à caractère sexuel à Piotr Pawlenski, son compagnon actuel. Les enquêteurs vont donc procéder à des vérification de son matériel informatique pour déterminer si son smartphone ou son ordinateur ont pu être piratés. Le couple sera présenté dans la matinée à un juge d'instruction qui pourrait les mettre en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel.
Dans l'actualité, la banque HSBC vient d'annoncer un énorme plan de restructuration, 35 000 emplois supprimés dans le monde.
Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour.
Est-ce que ça va toucher la France?
C'est un gigantesque plan d'économie que l'une des plus grandes banques du monde vient d'annoncer. HSBC, on ne le sait pas toujours, c'est un géant sino-britannique et la raison de ce plan est simple. Impact du Brexit, impact du coronavirus, impact de la crise à Hong Kong. Et donc oui, en 3 ans, HSBC va supprimer 15% de ses effectifs. C'est bien évidemment énorme et inévitablement, d'une certaine manière, ce plan va toucher la France. HSBC en France, c'est 250 agences, 800 000 clients dans la banque de détail, des activités pour les entreprises. Et HSBC a déjà laissé entendre qu'elle réfléchissait justement à vendre son activité de banque de détail en France. Ça pourrait du coup se préciser dans les heures à venir. Il faut dire que la clientèle aisée d'HSBC intéresse, puisque c'est une clientèle souvent très patrimoniale, qui a des moyens. La banque postale, notamment, est souvent citée comme un potentiel acheteur des activités de banque de détail d'HSBC en France.
Les informations d'Emmanuel Dutheil, chef du service économie de la rédaction d'Europe 1.
Europe 1.
Vous restez avec nous dans un instant. Un artiste rwandais, apôtre de la réconciliation, retrouvé mort en prison dans des conditions plus que suspectes. L'éclairage de Vincent Hervouette, c'est tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h10. La suite du journal, Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Écoutez bien cet hymne à la réconciliation. Nous avons choisi de vous parler ce matin de la disparition très lourde en symbole d'un célèbre chanteur africain, Kizito Mihigo, chantre de la réconciliation rwandaise. Il a été arrêté jeudi dernier près de la frontière burundaise.
Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour.
Il se serait suicidé dans sa cellule à Kigali.
Alors on est tellement habitué aux artistes qui jouent les rebelles qu'on peine à réaliser que Kizito Mihigo en est mort. Il a cru à la paix, il l'a chanté, ça l'a tué. Selon la police rwandaise, il s'est pendu à l'aube avec ses draps. L'enquête a été bouclée dans la journée. Évidemment, personne n'y croit. Parce qu'on meurt en garde à vue au Rwanda, parce que Kizito était chrétien et sa musique, le gospel, faite pour surmonter le désespoir et pour réparer le Rwanda, c'est au moins ce qu'il croit. Kizito, c'est l'histoire édifiante d'un gamin tutsi qui échappe au génocide. Ensuite, c'est un modèle de résilience, la foi, le chant. L'orphelin fait partie de ceux qui composent l'hymne national. Il a 20 ans. Après, le Conservatoire de musique de Paris. Et puis, à son retour au Rwanda, c'est une vedette. Il a son émission à la télé, sa fondation pour la paix, tous les honneurs.
Il chante, Vincent, le sens de la mort qui raconte le génocide des Tutsis et les représailles contre les Hutus.
Et pour le régime, c'est un sacrilège de parler de la violence contre les Hutus. Il a 33 ans, le calvaire commence, sa musique est interdite, il l'accuse de terrorisme, le rossignol est mis en cage. Il en sort quand le président Kagame décide d'améliorer ses relations publiques, il est gracié et une ministre rwandaise prend la tête de la francophonie. Paris vaut bien un peu de musique sacrée. Kizito Mihigo avait été réarrêté jeudi, qu'il se soit suicidé ou qu'il ait été assassiné, le régime l'a tué.
Le regard international est engagé de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h.
De la neige par hélicoptère. L'initiative d'une station de ski des Pyrénées, Luchon-Superbagnères, a fait bondir la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne.
Enneiger des stations de ski par hélicoptère n'est pas une voie possible, a-t-elle lancé. La ministre convoque d'ailleurs les responsables des domaines skiables dans la semaine.
Objectif, je rallume mon micro, trouver des alternatives tout en respectant l'environnement. Pauline Jacquot.
Il faut cesser ce genre d'initiative absurde. Voilà ce qu'on dit dans l'entourage d'Elisabeth Borne. Il ne s'agira pas d'amener à tout prix de la neige dans les stations, affirme un conseiller, mais plutôt d'imaginer d'autres activités. Randonnée, VTT, spéléologie. Le ministère veut recenser tout ce qui se fait déjà dans le Vercors, les Vosges ou les Pyrénées par exemple, pour bâtir un plan d'action cohérent à l'échelle nationale. Miser sur la diversification, bien sûr, mais aussi sur les avancées technologiques pour préserver les stations. Alexandre Molin est le président de Domaines Skiables de France.
Nous cherchons comment demain développer un carburant propre pour pouvoir damer sans émettre de gaz à effet de serre. Beaucoup de stations utilisent des GPS pour passer moins d'heures dameuses, donc on réduit tout ce qu'on peut réduire. Le GPS nous permet aussi sur les dameuses de moins produire de neige parce qu'on sait exactement la couche que l'on dispose sous les chenilles de nos dameuses.
La gestion de l'eau, des déchets ou encore les énergies renouvelables, il faudra évidemment adapter, prévient-il, les mesures à suivre suivant le chiffre d'affaires des stations, de 15 000 euros pour les plus modestes à 70 millions d'euros pour les plus importantes.
Et enfin, une grande soirée de football sur Europe 1. Le Paris Saint-Germain joue ce soir à Dortmund, 8e de finale aller de la Ligue des Champions, à suivre en intégralité sur notre antenne. Soirée spéciale dès 20h avec Lionel Rousseau.
3 ans, Mathieu, et vous les comptez, hein, que les Parisiens sont éliminés en 8e de finale. Neymar, par le passé, a manqué beaucoup de ses rendez-vous décisifs. Il est bien là cette année, comme Kylian Mbappé. Il faudra bien cela pour surmonter l'enfer au stade de Dortmund et sa fameuse tribune, le mur jaune, Cyril de la Morainerie.
C'est la tribune la plus intimidante du monde. 100 mètres de large, 40 de haut, une pente à 47 degrés. Le fameux mur jaune, bien plus qu'un 12e homme. Il promet l'enfer à toutes les équipes qui débarquent à Dortmund. Franck, un habitué de cette tribune, met en garde les joueurs du PSG.
Ah, la tribune sud, c'est une expérience. Oui, c'est toujours la folie là-bas. Ça va être un sacré moment contre le PSG. Et il va y avoir une excellente atmosphère, ça oui.
Et le mur jaune galvanise l'équipe allemande. Dortmund n'a pas perdu un seul match cette saison dans son stade, souligne le milieu du Borussia, Axel Witzel.
Ici, il y a toujours une atmosphère de fou et nous poussera à faire un top match.
Mais ce soir, ils ne seront que 16 000 dans la sub-tribune au lieu de 25 000 car l'UEFA impose des sièges. Ils sont tous prévenus. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé il y a 3 ans avec Monaco, a déjà transpercé le mur jaune.
You'll never walk alone par les supporters du Borussia Dortmund. En l'occurrence, ce soir, Dortmund PSG 21h, soirée spéciale sur Europe 1, je vous le disais. 8h15, votre invité politique, Sonia.
Il y a de l'ambiance aussi à l'Assemblée sur la réforme des retraites. Alors, ce n'est pas le mur jaune de Dortmund, mais le mur rouge des insoumis avec leur obstruction et la droite dans tout ça. Quelle stratégie ? Bonjour, Christian Jacob.
Bonjour.
À tout de suite sur Europe 1.